Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Benjamin Muller et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 12, le dernier de l'année 2019. Alors pour bien terminer cette année, je souhaitais revenir sur un sujet qui est majeur, que l'on aborde beaucoup dans ce podcast, dans l'émission La Maison des Maternelles sur France 5, mais aussi sur les blogs, sur les réseaux sociaux, celui des violences obstétricales. Alors c'est un sujet compliqué, celui des violences obstétricales, car vous avez d'un côté des femmes qui racontent le plus sincèrement du monde les traumatismes réels qu'elles ont vécus pendant leur accouchement ou alors juste après, après avoir vécu des scènes ou des actes douloureux, choquants, etc., bien souvent sans qu'on leur explique vraiment ce qu'il se passe. Et de l'autre côté, vous avez des médecins, des gynécologues, des sages-femmes qui vous disent que de parler de violences obstétricales, ça sous-entend que ces violences, elles sont volontaires. Or, on l'espère, et c'est évidemment la réalité, l'immense majorité du corps médical n'est jamais volontairement violent. Comment donc parler des traumatismes réels, je le redis, que gardent certaines femmes, sans stigmatiser toute une profession? C'est compliqué. Alors pour cet épisode, j'ai donc voulu savoir, non pas ce qui relevait réellement de la violence, mais plutôt l'inverse, ce qu'était une maternité dite bienveillante. Qu'est-ce qu'une maternité peut mettre en place pour que les jeunes mamans, et les jeunes papas aussi, c'est important, vivent cette expérience de la naissance le mieux possible. Alors on va s'appuyer sur des témoignages poignants, qui décrivent une réalité qui reste parfois très compliquée, et recueillir l'analyse, sans langue de bois, vous allez l'entendre, d'une ponte qui a fait de la bienveillance sa règle de base, sans pour autant vendre du rêve, vous allez l'entendre. Épisode 12, c'est parti. Bonjour docteur Joël Belaïchalar.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud, par ailleurs membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Alors le 8 janvier prochain, le professeur Israël Nizan va venir ici à Saint-Cloud, dans votre maternité, vous remettre au nom du CNGOF, le label de maternité dite bienveillante. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce label ?
Ah, ça représente une reconnaissance de tous les efforts qu'on fait pour que tout se passe le mieux possible pour toutes les femmes qui nous font confiance.
Est-ce que vous avez changé quelque chose quand la création de ce label a été révélée ? Ou alors vous étiez déjà dans une démarche bienveillante ? Vous n'allez pas me dire que vous étiez dans une démarche malveillante, mais est-ce que vous vous êtes forcé à changer certaines choses ?
Je crois qu'on était déjà dans une démarche bienveillante. Attention, je ne veux pas dire qu'on est parfait. Mais on est déjà dans une démarche où l'entretien prénatal, on le propose systématiquement, où on essaye d'écouter les patientes, où on tient compte, par exemple, j'avais créé une feuille de staff quand on discute la voie d'accouchement, où vous avez en haut le nom de la patiente, ensuite l'avis du médecin ou de la sage-femme, et ensuite l'avis de la patiente. Donc c'est vraiment important. L'écoute des patients, je crois honnêtement que l'immense majorité d'entre nous, nous y sommes. Maintenant, attention, tout n'est pas toujours possible. Il faut bien que les patientes le sachent. De temps en temps, oui, il peut y avoir une anomalie du rythme majeure, le cœur du bébé va pas bien, et bien on va être obligé de faire la césarienne en urgence. Et à ce moment-là, on n'aura pas trop de consentement à redemander. On viendra expliquer après. Et moi, je le mets dans ma réunion de présentation. J'explique aux femmes, on peut être amené à prendre une décision en urgence et à vous le dire très vite pourquoi on le fait. Et on reviendra discuter avec vous après.
C'est important ce que vous dites, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de vos collègues qui viennent dans l'émission et qui en off, surtout hors micro, me disent « Moi ce label, je pense pas que c'est une bonne chose, parce que ça sous-entend qu'il y a encore beaucoup de maternités qui seraient malveillantes. » Est-ce que ça vous pouvez comprendre que certains disent « Attendez, si on pointe du doigt celles qui sont bienveillantes, c'est-à-dire que toutes les autres ne le sont pas ?»
Je peux tout à fait entendre, parce que par exemple, il existe le label « Maternité amie des bébés ». Moi je suis très opposée à ce label pour exactement cette raison. Ça voudrait dire qu'on n'est pas amie des bébés si on l'a pas. Je suis pour promouvoir l'allaitement, mais je suis pour respecter les femmes qui ne veulent pas allaiter. Et on essaye ici de vraiment accompagner les deux et de ne pas culpabiliser celle qui n'a pas envie d'allaiter. Donc je comprends ces réticences. Néanmoins, je pense que c'est un plus. Par exemple, afficher son taux de césarienne, comparer, comme on le fait ici dans nos réunions d'information, on se compare aux autres maternités de niveau 2 en Île-de-France. Et on voit que nous, on est à 21% 2018, j'ai pas les chiffres 2019, contre 23%. Ça veut dire qu'en Île-de-France, on est à peu près pareil. Afficher notre taux d'épisiotomie, les fameux 13%. Afficher notre taux d'extraction instrumentale. Je crois que tout ça, c'est un plus. Donc oui, je pense que le label est un plus. Il ne faut pas le diaboliser.
Effectivement, ce label est remis aux établissements qui s'engagent donc à mettre la bienveillance au centre de toutes leurs activités et qui acceptent la transparence sur leurs pratiques. Donc là, il y a les taux d'épisiotomie, d'accouchement déclaré, de césarienne. Vous l'aviez déjà, cette transparence ? C'est quelque chose qu'on vous demande beaucoup, les patientes vous demandent, les taux d'épisio, par exemple ?
Alors oui, c'est quelque chose que... Alors toutes les patientes ne le demandent pas. Hein. Moi, je le cite systématiquement dans ma réunion d'information tous les mois pour les futurs parents. Non, il y a des patientes pour qui ce n'est pas fondamental. J'avais une volonté d'humanisation très très importante. Mais l'humanisation, c'est pas que ça, c'est la place de l'accompagnant. Ça, c'est très important et c'est un des critères du label. C'est difficile de faire rentrer dans l'esprit de tout le monde, du personnel, que l'accompagnant, parfois l'accompagnante, c'est pas le gêneur, c'est quelqu'un d'important, que les choses ont changé. Dans ma génération, c'est vrai que les papas, ils dormaient pas la nuit ici, ils allaient rentrer se reposer. La génération de ma fille, je le vois bien. Tous les pères, ils veulent dormir ici. Et c'est bien. Et donc, on a acheté des lits. Oui, on fait des modifications. Et ça, la labellisation le reconnaît. Bah, c'est un plus.
Alors, j'ai reçu beaucoup de témoignages sur le sujet de la bienveillance. En gros, je demandais aux femmes qui viennent d'accoucher, pour vous, c'est quoi une maternité bienveillante? Et racontez-moi si la vôtre était, selon vous, bienveillante. Je vous le donne en mille. J'ai surtout reçu des messages plutôt critiques et négatifs qu'on va pouvoir commenter ensemble. Le premier de Cyrielle, qui a vécu deux accouchements très différents.
Bonjour, je m'appelle Cyrielle, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants et deux accouchements très très différents. Pour ma fille Romy, j'ai accouché dans une maternité à côté de chez moi, pas très loin. J'avais pas trop réfléchi d'ailleurs au choix de la maternité, mis à part la proximité. Et ça a été un accouchement compliqué, c'est-à-dire l'après-accouchement qui a été compliqué. 4 heures pour accoucher, très rapide, très intense, très douloureux, un hématome au périnée. J'ai été déchirée, recousue à vif, la joie des hémorroïdes, enfin bref, je vous passe le topo mais la totale quoi. Et beaucoup de douleurs, beaucoup de grosses douleurs et donc j'alertais les sages-femmes en disant ça va pas, je rentre bientôt chez moi et franchement je le sens pas quoi. Et en fait on m'écoutait pas, il fallait faire de la place dans la maternité et je me sentais très très seule. J'ai même une sage-femme qui m'a dit écoutez madame, faudrait peut-être arrêter de vous plaindre hein. Mais rendez-vous compte, quoi. J'ai même pas réagi à l'époque parce que j'étais tellement mal que, enfin, j'ai même pas su me défendre, en fait. Ou en tout cas, dire c'est pas possible, on peut pas me parler comme ça. Donc le retour à la maison a été très très compliqué. Quand ma sage-femme est arrivée, elle m'a trouvée dans un état terrible. Je pleurais beaucoup, j'étais vraiment dans la souffrance. J'ai stoppé l'allaitement. Parce que il fallait vraiment que je me soigne. Il y avait plus de plaisir, puis j'y arrivais pas en fait. Enfin, ça avait très mal démarré en fin de compte. Et ça a été un peu la descente aux enfers parce que mon baby blues s'est un peu transformé en dépression. Je crois qu'aujourd'hui je peux le dire. J'ai beaucoup pleuré et elle m'a vraiment beaucoup épaulée, cette sage-femme qui est vraiment douce et bienveillante, qui m'a écoutée et ça a été vraiment une force pour moi pour avancer. Et à contrario, pour mon fils, j'ai fait le choix d'une autre maternité où j'avais un vrai projet de naissance et surtout, ça n'a rien à voir. On m'a écoutée, on m'a épaulée, on m'a dit surtout, si vous voulez rester un peu plus, n'hésitez pas, on vous met pas dehors. Ça quand même, ça, c'est totalement différent. Aujourd'hui, je pleure plus parce que ce deuxième accouchement a complètement exorcisé ce que j'ai vécu avant. Et ça, ça fait beaucoup de bien, parce qu'il y a quand même des maternités où on pense au bébé et à la maman.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Cyrielle? Deux accouchements totalement différents, mais c'est vrai qu'elle a mal vécu le fait d'être mise dehors. En tout cas, elle l'a vécu comme ça.
Je voudrais d'abord dire que les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on le dit souvent. Et que malheureusement, c'est vrai que quand on est satisfait de vacances, d'hôtels, nous-mêmes, les médecins, ben, on a tendance à ne pas l'écrire. Par contre, si on a envie de râler parce qu'il y avait une chambre où il y avait une fuite d'eau, eh ben là, on va le mettre. Donc, c'est pas bien. Depuis ces histoires, moi, je m'oblige à dire quand je suis contente. Et je voudrais que tout le monde s'oblige à dire quand on est content. On a des enquêtes qui montrent que les patients sont à l'immense majorité, elles sont contentes de leur accouchement, contentes de l'accueil reçu. Alors je suis désolée pour cette dame. Vous le savez, on a fermé beaucoup de maternités. Il en reste 500 en France. Et qui dit fermer les maternités dit qu'il y a moins de lits. C'est vrai. En échange, on a augmenté la sécurité, donc c'était pas un mal. Oui, en moyenne, les femmes sortent au troisième jour au matin, et on n'a pas trop le choix vu notre nombre de lits. Alors si la femme va pas bien, bien sûr qu'il faut essayer de discuter avec elle, voir. Mais il y a des possibilités d'accompagnement à domicile. C'est dommage que Cyrielle n'en ait pas bénéficié. Il y a le Prado, il y a des sages-femmes qui peuvent venir voir, et c'est très important pour pas laisser justement une femme désemparée toute seule chez elle.
Votre réaction, elle est bien, parce que d'un côté, vous dites oui, on va vers la bienveillance, etc., mais on peut pas non plus tout reprocher aux maternités. Et c'est une période qui est compliquée pour vous, les médecins, mais qui est intéressante aussi, j'imagine. Il y a une remise en question sans pour autant accepter le lynchage des médecins.
J'accepte pas le lynchage des médecins. On doit faire en permanence le grand écart, ou être schizophrène, comme je dis. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent « je veux la nature ». Je les entends. Mais j'ai de plus en plus de patientes qui me disent « moi, je veux pas accoucher par en bas ». J'ai été en particulier, le plus souvent, on me dit « j'ai eu des violences quand j'étais petite et des violences sexuelles. Je peux pas imaginer d'accoucher ». On essaie de discuter avec elles, mais on a de plus en plus de patientes, voire des patientes qui me disent « vous savez, vous êtes la troisième maternité que je fais, je veux une césarienne ». Moi, j'accepte. Et j'ai essayé d'instaurer un climat de bienveillance, de dire la bienveillance, c'est d'accepter la nature, mais de discuter, de savoir pourquoi la dame veut une césarienne. Et je vous dis, le plus souvent, malheureusement, et peut-être parce que la parole se libère, les patientes nous disent pourquoi elles veulent une césarienne, et ben finalement, on accepte. Tant pis, ça va augmenter notre taux de césarienne, mais j'ai décidé que je vais les afficher différemment. On va mettre notre taux de césarienne et on va mettre à part césarienne à la demande des patientes. Je les afficherai, mais je ne vais pas mettre, si je passe de 21% que j'avais en 2018 à 23% en 2019, je vais mettre 21% césarienne d'indication médicale, plus tant de pourcents lié à la demande de la patiente, qui est respectable. On a le droit d'accoucher dans les positions qu'on veut, on a le droit d'accoucher sans péri. Je crois que c'est ça, écouter les patientes. C'est écouter dans tous les sens. Et puis surtout et toujours dire, tout n'est pas possible. On fait tout ce qu'on peut pour vous satisfaire, mais tout ne sera pas toujours possible.
Vous réussissez à dire à une patiente, non, ça c'est pas possible, vous délirez.
Bon, j'ajoute pas vous délirez, on essaye d'expliquer. Ça se passe pas toujours bien, et c'est dommage.
Nouveau témoignage cette fois de Justine. Elle parle, et ça va être intéressant d'entendre votre réaction à ça, de la notion de consentement pendant les actes.
Je m'appelle Justine, j'ai 28 ans et je suis la maman d'une petite Chloé de 2 mois et demi. J'ai vécu une grossesse de rêve. Aucune complication, peu de prise de poids et sans vraiment m'en soucier et quasiment aucun effet négatif de la grossesse. Je ne peux pas en dire autant de mon accouchement. Certes, avec le recul, je me dis que je dramatise. Mais quand j'y réfléchis, je me dis que non. Aucune femme ne devrait subir ne serait-ce qu'une infime violence gynécologique ou obstétricale. Parce qu'aucune d'elles n'est justement infime. Ayant un passé compliqué dans ce domaine, j'ai développé une sensation de profond malaise quand il s'agit de me faire examiner gynécologiquement. Première écho, donc, celle de datation, qui se fait par voie vaginale. On oublie de me demander l'autorisation de m'examiner. Je n'allais pas dire non, mais il s'agit tout de même de mon corps. Et on trifouille, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en oubliant que je suis là, qu'il y a quelqu'un qui ressent tout ce qui est fait. Me remémorant cet instant les fois suivantes, je fais au mieux pour me détendre et bien respirer, pour oublier la douleur au moment de l'examen du col. Parfois, je dis bien parfois, on me demande si je suis prête alors que l'examen débute au même moment. Ce n'est rien en comparaison de l'examen du col en salle de pré-travail. Je couine, me retenant pour ne pas crier, et répète à plusieurs reprises à la sage-femme qu'elle me fait mal. Elle ne réagit pas, ayant demandé l'autorisation de m'examiner à demi-mot, et... encore une fois, quand l'examen a déjà débuté. Plus tard, heureusement j'en ai un vague souvenir, mais un souvenir de douleur aiguë. Ma péridurale ne fonctionne plus à gauche pendant les 30 minutes où mon col passe de 4 à 9 cm. Piqué trop à droite, un mari qui cherche désespérément quelqu'un dans le service sans que personne ne vienne, parce qu'il a la peur de sa vie en regardant mon masque de douleur. Dose réajustée, je n'ai plus aucune sensation, ne commande plus mes membres postérieurs et suis repositionnée comme un sac à patates. Jusqu'à ce que je dise stop, au moment le plus important, en accouchant. La sage-femme exerce sur moi une expression abdominale. Je refuse de pousser, lui faisant comprendre que j'ai encore plus mal qu'une contraction à son apogée. Elle capitule, presque étonnée. Cette pratique est à abandonner selon la haute autorité de santé. Ce que j'ai vécu témoigne du manque de communication, d'information et de formation du personnel soignant. Je suis sûre que, quelque part, cette personne a cru et a voulu faire de son mieux. Je ne suis pas là pour lui expliquer son travail. Il s'agit cependant de mon corps et de ma voix. Malheureusement, le manque de personnel a une grande influence sur les violences gynécologiques et obstétricales. On fait comme on peut, presque à la chaîne. Les techniques évoluent sans cesse, mais les formations se raréfient. Et on perd le temps, on n'a plus le temps de se former et d'écouter. J'ai même moi-même découvert ces termes en écoutant des podcasts et j'essaye comme je peux d'en parler autour de moi. J'ai pourtant accouché dans une clinique que je peux qualifier de bienveillante, où l'on fait au maximum pour éviter l'épisiotomie par exemple. Ma grande peur et mon unique souhait sur mon projet d'accouchement.
Docteur Belaïch Allard, déjà sur la notion de consentement, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage, et plus globalement le consentement ?
Je pense qu'en matière d'accouchement, c'est difficile, le consentement. Demander un consentement à une intervention programmée à froid, on explique, je vais vous faire une cellio, il y a un kyste de l'ovaire, voilà ce qui peut arriver, voilà. Ça, c'est facile parce que c'est programmé. L'accouchement, il faut bien savoir que ça peut, en quelques minutes, tourner au drame. Et là, on n'a pas toujours le temps de tout expliquer. Nous expliquons que non, on ne tient pas à faire des épisiotomies. Mais enfin, de temps en temps, on voit la patiente où on lui dit, il y a un forceps à faire, le bébé va pas bien, anomalie du rythme. Et qui, est-ce qu'on a le temps de discuter? On lui dit, je vais. Alors oui, il faut dire ce qu'on va faire. Je vais vous faire une épisiotomie avant de faire le forceps, ou je commence, mais je suis obligée de la faire. Si vous voulez, on peut pas avoir ce qui est arrivé récemment à un de mes chefs qui dit, j'ai demandé à la dame, est-ce que je peux vous faire une épisiotomie? Elle m'a dit, non, je veux pas. Donc elle a fait le forceps, il y a eu une petite déchirure. Elle lui a dit, je ne voulais pas de déchirure. Mais attendez, nous sommes des humains, on fait ce qu'on peut et on le fait le mieux possible tout le temps. Ne pas croire que tout est possible. Je regrette que de temps en temps, on fasse croire aux patientes que accoucher, c'est une partie de plaisir. C'est pas vrai. Il n'y a que dans les magazines féminins que tout est rose. Et puis, de temps en temps, il y a des accouchements merveilleux. Tant mieux. Mais accoucher, ça fait mal. C'est très bien qu'il y ait des péridurales. On force pas la péridurale. Accoucher, il peut y avoir des problèmes. La dame peut se mettre à saigner. La vie du bébé et la vie de la femme peut être en danger. Il faut savoir que nous, on doit tout assumer et tout faire le mieux possible. Alors, le consentement, oui, chaque fois que possible. De temps en temps, ça va pas être possible. Il faut expliquer. C'est ce que moi, je mets dans ma réunion d'information aux patientes. Si, de temps en temps, on aura très vite. On va passer au bloc très vite, madame. On va vous dire, le bébé ne va pas très bien. On passe au bloc tout de suite. Et on reviendra après, le lendemain, le soir, ça dépend de l'heure, si la dame se fera. Le lendemain matin, avant de partir de garde, le médecin va revenir expliquer, voilà pourquoi j'ai fait la césarienne. Mais oui, de temps en temps, il faut savoir aller très vite.
Il faut savoir aller très vite, pas demander son avis donc à la patiente, mais le débriefing est effectivement très important.
Par contre, c'est clair que moi je dis toujours, quand j'examine, je vais vous examiner, ou vous permettez que je vous examine, ça c'est indispensable. Et on lui dit, je vais faire une écho vaginale, je mets la sonde. Bien sûr qu'il faut expliquer, ça c'est une certitude.
Elle parle d'expression abdominale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et pourquoi c'est plus du tout recommandé ?
L'expression abdominale, c'est un vieux truc qui consistait à essayer d'appuyer un peu sur le fond utérin pour faciliter la sortie du bébé. Non, on ne le fait plus, la HAS ne le conseille pas, et normalement, je crois qu'on n'en fait plus dans aucune maternité. Je suis d'accord avec elle.
Bon, il y a des mauvais plombiers, il y a des mauvais boulangers, il y a des mauvais journalistes, et il y a des mauvais gynéco ou sage-femme.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a une grande majorité de gens qui font bien leur métier. Il faut arrêter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors, j'entends qu'il y ait des patientes pour qui ça ne se passe pas très bien, mais écoutons aussi toutes celles pour qui ça se passe bien.
Bon, je suis désolé, prochain, ça s'est pas bien passé, mais par définition, vous l'avez dit, les témoignages que je reçois sont plutôt des critiques, c'est souvent comme ça. Témoignage de Kathleen, qui a accouché dans une maternité qui, là, non plus, ne donne pas vraiment envie.
J'ai accouché, alors déjà dans un hôpital où les toilettes et les douches étaient communes, bon, à la limite, ça se comprend, sauf qu'en fait, il y avait constamment du sang, partout, partout du sang. Il y avait du sang sur les poignets, du sang sur les robinets, du sang sur la cuvette, du sang sur la douche, par terre, sur le sol. Un matin, j'ai ouvert la douche pour prendre ma douche. Il y avait carrément une alaise pleine de sang qui était traînée par terre. Donc voilà, donc je prenais mes douches avec des surchaussures parce que je ne voulais absolument avoir aucun contact avec ça. Voilà pour ce qui est de l'hygiène. J'ai ma belle-mère qui avait vu plusieurs palettes vides entreposées dans le hall de la maternité. Et alors, la première nuit où j'étais épuisée de ma césarienne, j'ai demandé qu'on me garde ma fille parce que j'étais trop épuisée. J'avais du mal à me relever de mon lit pour m'en occuper correctement et on a refusé. En disant, mais madame, vous avez accouché hier, vous devriez déjà vous en être remis. Ajouter à ça que j'ai accouché un peu avant minuit, donc par césarienne. 2h du matin, je suis remontée à ma chambre, voilà, après avoir été en salle de réveil. Mon mari était évidemment avec moi. Et là, on a demandé gentiment à mon mari de partir parce que c'était plus l'heure des visites. Donc mon mari a insisté pour rester. Et finalement, on lui a dit, bon bah d'accord, vous pouvez rester, mais que jusqu'à 5h du matin parce que... Faut que vous soyez parti avant la relève, sinon on va avoir des problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les papas ils restent pas ici, voilà. Donc voilà, le papa n'a jamais eu le droit de rester ni aucune nuit, ni aucune matinée, donc que l'après-midi sur les heures de visite normales, quoi.
De Docteur Belaïch, alors, si on s'arrête sur la fin du témoignage à propos des papas, demander au père de partir la nuit, le matin, parce que c'est pas les visites, ça, non, ça se fait de moins en moins, j'imagine. En tout cas, pas chez vous, les pères sont les bienvenus.
C'est relativement inadmissible. Je suis complètement d'accord avec Kathleen. Oui, les pères sont bienvenus. L'accompagnante est le bienvenu. C'est très important. Tout a changé. On a suffisamment reproché dans ma génération, effectivement, aux pères de ne pas être impliqués. Maintenant, ils sont là, ils sont présents, ils veulent vivre les premières heures avec leur femme et les premières nuits. Ben, c'est génial. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est un grand changement de mentalité. Et même quand on est convaincu, et moi je le suis vraiment très fort, ça fait 4 ans que je me bats dans ma propre maternité, il y a tout le personnel qui dit oui, mais c'est embêtant. Ils ont des bons arguments de temps en temps. On dit on va voir des messieurs dont on ne sait pas qui c'est errer la nuit dans les couloirs. Bon, alors on a trouvé un truc, maintenant on va demander qu'ils aient un badge autour du cou avec le nom de leur femme et le numéro de la chambre. Ça, c'est normal, la sécurité, elle est fondamentale dans les maternités. On nous dit aussi, oui, mais les papas, ils errent en slip ou en caleçon dans la nuit, dans les couloirs. Ça choque les gens. Bon, alors c'est vrai qu'il faut faire des efforts. C'est vrai que c'est pas un hôtel. Mais il faut accepter les pères. Ils ont leur place. Et parfois l'accompagnante, ils ont leur place. Mais c'est un combat de tous les jours. Oui, on y arrive. Mais il faut se battre.
Alors là, en attendant de pouvoir entrer dans votre bureau pour faire cette interview, j'étais dans les couloirs de votre maternité, j'ai vu effectivement plein de pères passer. Alors tous étaient habillés, donc c'est déjà la bonne nouvelle. Ça a changé quand même, j'imagine, l'ambiance dans les maternités d'avoir des pères de plus en plus présents et dans les salles d'accouchement aussi.
Alors les pères, ils sont les bienvenus dans les salles d'accouchement. Il faut aussi savoir, ils sont les bienvenus au bloc opératoire aussi. Nous, on les prend si la césarienne n'est pas en urgence. Si c'est une césarienne programmée, on demande l'avis. Est-ce que votre accompagnant va vouloir venir? Et s'il veut. Mais pas que le père. Si le papa n'est pas là pour une raison X et qu'on nous dit est-ce que la mère, la belle-mère peuvent assister? Oui, bien sûr. Et vous voyez, on a du mal. Tout récemment, un de mes chefs qui allait commencer les césariennes programmées m'appelle en me disant est-ce que je peux accepter la belle-sœur parce que le mari n'est pas là? Je dis mais évidemment, on prend une accompagnante qui va tenir la main de la dame, qui va bavarder avec elle pendant la césarienne. Mais il y a un changement de mentalité. Ici aussi, je reconnais, moi je viens d'une autre maternité à Sèvres quand je suis arrivée ici pour faire passer les pères au bloc, mais ça a encore été une bataille. Mais c'est vrai qu'il faut y croire. L'humanisation des maternités, c'est indispensable.
Changement de mentalité avec l'ancienne génération ou même la nouvelle génération, c'est pas générationnel?
Je pense que c'est beaucoup générationnel, effectivement. Et que c'est plus le personnel est d'un certain âge, plus il trouve que l'accompagnant, c'est le gêneur. Et plus le personnel est jeune, plus il dit les femmes jeunes, mais moi, quand je vais accoucher, bien sûr que mon mari sera là. Donc, il est normal. Alors, mon mari, mon conjoint, mon petit copain, mon Gilles, ce que vous voulez, il sera là. Et ben donc, je l'accepte pour les autres.
S'il y a des futurs pères ou des futurs accompagnants qui nous écoutent, comment ne pas être gêneur? Parce que ça doit quand même arriver. Et ça reste quand même un sujet. Il y a des pères qui vous gênent pendant l'accouchement?
Bah, oui, parfois, celui qui veut absolument être entre les jambes de sa femme, c'est un petit peu malsain, je pense, honnêtement. Mais après, il y a des pères qui veulent sortir au moment pile de l'accouchement. Bah, ils ont le droit. Ça, je tiens à le dire. Ils ne sont pas obligés. Oui, mais l'idéal, c'est qu'ils soient à côté de leur femme et qu'ils soient plutôt aidants. Non, moi, je pense qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un moment facile d'accoucher. Ce n'est pas un moment facile d'être le conjoint de la dame qui est en train, quand même, de passer un moment qui n'est pas aussi génial que ça. C'est génial dès que le bébé est sorti. Mais l'accouchement en soi-même, bah, il est peut-être temps de reconnaître, et que les magazines féminins le disent, c'est pas toujours une partie de plaisir. C'est vrai. Alors, je ne veux pas terroriser les patientes, je ne veux pas terroriser les femmes, mais il faut quand même dire la vérité. Et je pense que s'il y a tant d'attaques de malveillance qui ne sont pas des malveillances, hein, je suis vraiment choquée par le terme violence obstétricale, c'est qu'on leur a fait croire que tout était rose dans les maternités. Ben non, le simple fait d'accoucher, c'est une épreuve, faut le dire. C'est génial parce qu'il y a un bébé à la suite. Mais c'est pas si simple que ça, il faut le dire.
Il faut qu'on détaille pourquoi vous êtes choqué par le terme de violence obstétricale. Ça sous-entend que c'est une violence volontaire de la part de l'équipe médicale. C'est pour ça que le terme ne colle pas?
Je pense qu'il y a eu sûrement des excès de pouvoir médical, mais dans tous les domaines, pas seulement dans l'obstétrique. Il y avait le paternalisme, moi je sais ce qui est bon pour vous. Bon, bah, c'est fini, et tant mieux, on discute. De temps en temps, les patientes sont déconcertées. Moi, je le vois dans un autre domaine qui est l'assistance médicale à la procréation, quand je leur explique, ben voilà, on pourrait faire ça, je vous propose plutôt ça, mais je reconnais que les deux choix sont légitimes. Et régulièrement, j'ai, mais c'est vous qui savez? Mais c'est vous le médecin. Et donc, associer, c'est vrai que la lumière, quand on dit il faut un consentement éclairé, ben la lumière, elle est celle qu'on donne. Donc, à bas le paternalisme, je suis bien d'accord. Que les patientes et les femmes, qui ne sont pas des patientes, des femmes qui vont accoucher, soient associées aux discussions, oui, mais il ne faut pas nous demander l'impossible.
Allez, dernier témoignage, mais la plus positive, c'est Margot qui a un message à faire passer aux futures mamans qui nous écoutent.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 27 ans. J'ai accouché 3 fois en 4 ans et j'ai toujours fait le choix d'être accompagnée par mon gynécologue parce que je voulais avoir un suivi de A à Z et je voulais me sentir vraiment en sécurité et en confiance. Néanmoins, j'ai toujours été super bien accueillie par l'équipe médicale, que ce soit pour mes accouchements spontanés ou pour mon accouchement programmé. On m'a toujours expliqué ce qui se passait et ce qui allait se passer. On m'a également toujours demandé mon consentement, on ne m'a jamais rien imposé, ou même fait culpabiliser par rapport à mes choix, que ce soit la péridurale, allaiter ou non. Que ce soit en salle d'accouchement ou durant tout mon séjour maternité. Ce que j'aimerais dire aux futures mamans aussi, c'est n'ayez pas peur de vous exprimer. Votre avis compte, c'est pas parce que vous n'êtes pas médecin, sage-femme ou gynécologue que vous n'avez pas votre mot à dire. Soyez actrice de votre accouchement et non spectatrice, parce que c'est vraiment un événement qui vous marque à vie. Et je pense que par la communication, on pourrait éviter pas mal de violences obstétricales, car elles sont bien réelles. En résumé, ce serait donc informer, communiquer, pratiquer, mais aussi énormément de respect, d'empathie, savoir guider sans imposer. Et je souhaite vraiment à toutes les futures mamans d'avoir la même qualité de prise en charge que j'ai pu avoir. Car une femme qui est sur le point de donner la vie est vraiment très vulnérable. Alors informez-vous sur votre maternité, établissez un plan de naissance et faites-vous entendre.
Docteur Belaïch Allard, un dernier témoignage de Margot qui j'imagine fait plaisir. Elle a plein de bon sens. C'est vrai que maintenant, la vie des futures patientes compte. Il faut leur dire, n'hésitez pas à parler avec vous, les médecins.
Alors, c'est exactement ça. Moi, je trouve que le projet de naissance, il n'est pas obligatoire. Mais par contre, si la femme a envie d'en faire un, il faut qu'elle l'amène pendant les consultations, qu'elle l'apporte, qu'on puisse en discuter. Parce que à ce moment-là, on va dire, voilà, ça, oui. Ça, honnêtement, ça va être un peu compliqué. Et honnêtement, ça, c'est pas tout à fait possible. Mais quand on discute, quand on explique, les choses se passent bien. C'est l'absence d'explication qui passe mal.
Merci beaucoup, docteur Belaïch Allard. Félicitations pour ce label. Donc, début janvier, vous allez faire une petite fête pour fêter ça ou non, on se repose pas sur ses lauriers?
Bon, si, on va faire une petite fête. Et puis, ce que je veux surtout dans le label, c'est que tout le personnel marche avec moi. Parce que le label, c'est bien sûr le chef de service, c'est l'équipe des médecins. Moi, je tiens vraiment à ce que tout le monde, on soit convaincu. Il faut être bienveillant, il faut être accueillant. Nous n'avons pas des malades. Les femmes qui vont accoucher, ce sont des femmes jeunes, en bonne santé, et qui viennent pour un truc qui sera peut-être le passage en salle de naissance, pas toujours parfait, comme elles le voudraient, mais qui ensuite auront un séjour, elles vont, tout va se passer bien théoriquement. Et c'est vraiment important de comprendre qu'elles ont besoin d'avoir une alimentation sympathique, d'avoir une jolie chambre, d'avoir le papa qui va pouvoir être avec elles. Et donc, oui, on va essayer de faire une petite fête pour célébrer, et puis je suis très heureuse de ce diplôme. On va être très clair, ce diplôme, je l'ai sollicité, la labellisation. Ensuite, les choses seront vérifiées. D'abord, c'est sur ma bonne foi. Je pense que nous y répondons. Et puis, ultérieurement, le collège vérifiera que nous continuons à y répondre.
Voilà, c'est la fin de ce 12e épisode du podcast des maternelles. Vous l'avez compris, s'il y a une chose à retenir, c'est de ne pas hésiter à prendre la parole avant l'accouchement et avant le séjour à la maternité, à dire ce que vous souhaitez, dans la mesure du possible, et ce que vous ne souhaitez pas. Cet épisode a été réalisé pour France Télévisions et 2P2L, Jérôme Caza, Olivier Macqueron et Aurélie Taguet. Merci à eux. Comme tous les autres, cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira. Merci à lui en plus. Imaginez, il a la grippe, Alexandre, et il a 2 enfants en bas âge qui ne font pas leur nuit. Courage Alexandre, on est tous avec toi. Merci à toutes celles qui ont accepté de se raconter dans cet épisode. On se retrouve en janvier. J'ai envie de faire un épisode, le prochain, sur les papas. Ce serait une bonne idée, non, de parler des papas. Mais alors à propos de quoi? Tiens, dites-moi, vous aimeriez entendre des pères sur quel sujet? Qu'ils racontent l'accouchement, la vie à trois, leur implication, leurs doutes, comment ils voient la vie de couple maintenant, la vie sexuelle après la naissance, pourquoi pas? Dites-le-moi sur Instagram, vous me le dites, vous m'écrivez. Et mesdames, motivez vos maris pour qu'ils se racontent. Ça va être bien, non, d'entendre des pères, même si je sais déjà que je vais galérer pour les faire parler, parce que oui, nous, les hommes, on est quand même des grands pudiques. Quand même des petites choses fragiles, bien souvent. Allez, je vous laisse. Je parle trop aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je parle trop. Je vous souhaite quand même de très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et comme dirait Agathe Le Caron, à la fin de chaque émission, pendant ces vacances, vous savez ce que vous devriez faire?
Reproduisez.
Eh oui, reproduisez-vous. Fait froid en ce moment. Quoi faire de mieux que de rester sur la couette? Bon, je vous laisse. Je l'ai dit, je vous parle vraiment trop. Salut tout le monde.